Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine avec vous, Caroline Achowski, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Aujourd'hui, notre invitée multifacette sera une biologiste du milieu marin, Lynn Le Gall, spécialiste de la biodiversité. Nous serons avec Jean-Yves Casgar en troisième partie d'émission. Le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, de A comme âge de l'univers à Z comme Zodiac, vous l'avez rencontré Caroline, c'est l'astrophysicien Trinh Xuan Xuan, spécialiste de l'astronomie intergalactique et auteur de ce dictionnaire qui sort actuellement. La pénurie de molybdène, un produit indispensable à la médecine, va-t-elle nous obliger à reporter certaines analyses médicales, voire certains traitements? On fera le point avec le spécialiste français de ce produit. Et puis, Dominique Desaunay, bonjour.
Bonjour.
Comment une bactérie se propage dans un environnement? Un grand programme de recherche est en cours actuellement sur le site de l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Un projet inédit que vous nous détaillez dans quelques instants. Bienvenue dans cette émission. Micro-méga. Et pour commencer, quelques informations que nous avons triées dans l'infosphère avec vous, Caroline.
Les Maoris avaient raison. Leur oiseau géant légendaire, surnommé Teheokyoi, capable de dévorer les humains, a bien existé. La preuve, publiée dans le journal de paléontologie des vertébrés, passe par le scanner. Quand des chercheurs néo-zélandais ont passé le squelette de l'aigle de Haas, un oiseau de proie exhumé en 1870 dans le plus sophistiqué des scanners, adensiomètre, ils en ont déduit que cet aigle-là était deux fois plus gros que les plus gros aigles actuels. 18 kilos environ, avec des ailes de près de 3 mètres de long et des serres de la taille des griffes d'un tigre. Et une morphologie pelvienne lui permettant d'attraper ses proies à plus de 80 km/h. Ce qui en fait un redoutable prédateur capable d'embarquer et de dévorer, si ce n'est des adultes, au moins des enfants. Heureusement pour les enfants maoris, ces gros méchants aigles avaient disparu il y a plus de 500 ans, soit 250 ans après l'arrivée des premiers humains, hommes, femmes et enfants, sur cette île du sud de la Nouvelle-Zélande.
Elle s'appelle Corot 7b, c'est une planète à peine plus grosse que la nôtre, la Terre. Elle est située dans la constellation de la Licorne, à quelques 500 années-lumière de chez nous. Les scientifiques européens l'avaient repérée il y a un an grâce au satellite Corot qui recherche les exoplanètes. Mais cette fois, ils ont réussi à déterminer sa masse équivalente à environ 5 fois celle de la Terre et sa densité quasiment celle de notre planète. Un exploit réalisé à l'aide de savants calculs et aussi à l'aide des observations de HARP, un spectre c'est-à-dire un outil qui analyse la lumière et sa décomposition. De ces données, les physiciens ont pu aussi déterminer la structure de la planète. Eh bien, elle est rocheuse et c'est la première exoplanète rocheuse confirmée. Un véritable tour de force. Si Corot 7b fait partie des planètes rocheuses comme la nôtre, eh bien, les ressemblances s'arrêtent là car il y règne une température de plus de 2000 degrés sur la partie éclairée et moins de 200 degrés sur la partie sombre, la surface étant recouverte de lave ou d'océans bouillonnants.
Transformer les déserts en forêts, de nombreux chercheurs en rêvaient. Et voilà que quelques scientifiques new-yorkais viennent dans la très sérieuse revue Science de démontrer que c'est possible et que cela permettrait non seulement de reverdir les zones les plus arides de la planète, mais en plus de ralentir, si ce n'est d'arrêter, le processus du réchauffement climatique. Le rêve, on vous dit. Le seul souci avec cette technique d'irrigation au goutte à goutte, qui consiste d'abord à désaliniser l'eau de mer, puis à la transporter sous terre, jusque sous les déserts de la planète où l'on aurait planté des arbres à croissance rapide, type eucalyptus, que l'on arroserait au goutte à goutte. Le seul hic donc de cette technique, c'est le coût, évidemment, estimé à 2 trillions de dollars, soit 2 milliards de milliards de dollars par an. Ceci dit, c'est à peu près le coût estimé pour capturer le CO2 sous terre, d'autant qu'une fois plantées, ces forêts dans les déserts permettraient d'absorber directement tout le carbone que nous émettons quotidiennement. Mais comme décidément rien n'est simple, il se pourrait aussi que les bouleversements en chaîne engendrés par la transformation des déserts en forêts ne se révèlent en fait bien pire que le mal. Alors rêve vert ou cauchemar vert, personne pour l'heure ne détient encore la réponse.
Comment une bactérie se propage dans un environnement? Un projet de recherche est mené actuellement afin de comprendre les infections nosocomiales et pourquoi certaines bactéries, les fameuses staphylocoques dorés ou les entérobactéries, arrivent plus facilement que d'autres à se transmettre parmi les personnes qui sont hospitalisées ou travaillent à l'hôpital. Dominique Desonnet, vous nous en parlez.
Oui, le projet de recherche baptisé iBird a démarré le mois de mars dernier sur le site de l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer, c'est dans le nord de la France. Ce programme est dirigé par le professeur Didier Guimot de l'INSERM, l'Institut National de la Recherche Médicale, et consiste à suivre conjointement l'ensemble des facteurs ayant une influence sur la diffusion des bactéries au sein d'une population hospitalière délimitée. Et Didier Guimot de nous confier que les enjeux de cette expérimentation in situ sont cruciaux. En Europe, ces infections touchent de 5 à 12% des patients hospitalisés, avec parfois la mort pour les individus qui contractent cette redoutable infection.
Alors, je crois qu'il faut préciser juste que les infections nosocomiales, ça définit très précisément les infections qui surviennent à l'hôpital. Alors, ça peut être, bien évidemment, des bactéries résistantes aux antibiotiques, on va en parler tout à l'heure, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi la tuberculose sensible. Il y arrive qu'il y ait des phénomènes épidémiques de tuberculose dans les services hospitaliers, pas très fréquemment dans les pays développés, mais voilà. Et ça peut être aussi des épidémies à d'autres pathogènes, peut-être demain des épidémies de grippe, que ce soit la grippe H1N1 ou d'autres. Voilà, il y a aussi des épidémies de coqueluche de temps en temps. Donc, infection nosocomiale ne définit pas strictement les infections aux bactéries résistantes. Par contre, il y a effectivement dans les hôpitaux des infections dites nosocomiales, donc terme générique, mais très spécifiquement des infections à bactéries qui surviennent chez des gens qui ont en général des facteurs de risque ou sont très malades. C'est dans les services de réanimation, c'est dans les services d'hématologie. Et donc ces infections nosocomiales qui sont pour une grande partie d'entre elles dues à des bactéries résistantes, eh bien sont particulièrement difficiles à prévenir et difficiles à traiter quand elles sont liées à des bactéries résistantes, puisque du coup, y a peu d'antibiotiques qui sont efficaces. Et effectivement, globalement, 10% des gens hospitalisés courent un risque de faire une infection nosocomiale, ce qui est beaucoup. Mais il faut aussi savoir que ce sont, encore une fois, des infections qui surviennent en général chez des gens qui sont déjà malades ou qui sont vraiment dans une situation de réanimation. Donc s'ils sont dans une situation de réanimation, c'est qu'on essaie de les sortir du risque de décès.
Parfois, même c'est après une opération, accident de la route par exemple, et on attrape cette infection.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que
on ne peut pas dire que ce soit forcément des gens qui sont très mal en point.
Non, ils sont quand même rentrés à l'hôpital pour un problème de santé sérieux. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit avec les bactéries. On a plusieurs milliards de bactéries dans le tube digestif, dans la sphère pharyngée, c'est-à-dire la bouche, le nez, la gorge, et sur la peau. Et que ces bactéries se transmettent. On ne voit pas et on n'est pas malade, mais elles se transmettent. Et c'est le cas notamment du staphylocoque résistant à la méticilline. Et donc ces bactéries se transmettent par les contacts, elles se transmettent même éventuellement par la proximité. Et qu'on sait que la diminution du risque de transmission est un des facteurs de prévention. Et donc nous, c'est sur ces bactéries-là qu'on travaille. Alors bien sûr qu'il y a eu quand même des progrès de fait, et nul doute que toutes les mesures d'hygiène qui ont été prises dans certains services et dans les grands hôpitaux, ça fonctionne. Mais ça ne permet pas d'éradiquer complètement la diffusion de ces bactéries.
D'où l'idée de iBird 1, qui a déjà démarré, donc de collecter un petit peu ces traces de contact au sein même de l'hôpital.
Alors oui, nous on dit iBird parce qu'en fait c'est l'acronyme d'un titre anglais pour Individual Based Investigation of Resistance Dissemination. Donc ça c'est pardon pour ceux qui défendent
l'anglicisme.
Française. Oui, et le fait est que dans la recherche, je crois qu'on la cause est perdue.
On n'y reviendra pas.
Donc pour comprendre l'idée, c'est que il y a trois grandes catégories de facteurs qui interviennent dans la dissémination de ces bactéries. Il y a une première catégorie de facteurs qui est l'usage des antibiotiques. C'est-à-dire on sait que les antibiotiques sélectionnent les bactéries résistantes. Donc ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, nous-mêmes on en développe. Il y a une autre catégorie de facteurs qui est les caractéristiques propres de la bactérie. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une bactérie a une aptitude intrinsèque à faire une épidémie plus importante qu'une autre, qu'un clone de bactérie plus importante qu'un autre. Et puis, il y a ce qui rend possible la transmission. d'une bactérie entre deux personnes. Et ce qui rend possible, c'est le contact. Et donc, ce qu'on a décidé en collaboration avec Eric et l'INRIA, c'est d'essayer de mesurer deux grandes catégories de facteurs en même temps, et ça s'est jamais fait dans le monde, l'exposition antibiotique, les contacts, de façon à pouvoir in fine dire, voilà, ce clone de staphylocoque résistant à la méticilline a une aptitude épidémique intrinsèque plus grande que cet autre clone. Et donc ensuite, d'aller voir les microbiologistes moléculaires pour leur dire, trouvez-nous ce qu'il y a dans ces bactéries de génétique ou de métabolique qui fait qu'elle se transmet plus que l'autre.
Alors, si je comprends bien, l'un des enjeux du projet, c'est aussi de développer des outils d'analyse, des données, donc, pour permettre aux scientifiques de dresser des diagnostics fiables à l'avenir. C'est ça, Dominique ?
Oui, c'est bien ça. Avec l'équipe DNET de l'INRIA, l'Institut National en Informatique et Automatique, spécialisé dans la modélisation de la dynamique des réseaux travail, avec les équipes de l'INSERM et l'Institut Pasteur, pour adapter les méthodologies statistiques et outils informatiques. Cette partie a été confiée au professeur Eric Fleury de l'École normale supérieure de Lyon est responsable de l'équipe DNET de l'INRIA.
La naissance du projet a été de dire on a besoin de ces contacts, de savoir leur durée, leur fréquence, leur nombre, pour arriver à avoir des modèles meilleurs. Donc l'INRIA intervient ici, donc les STIC, les sciences de la technologie, de l'information et de la communication, rentre et rencontre un peu le domaine de la santé et du médical pour justement arriver à mettre en place une expérimentation, à mettre en place un dispositif qui va arriver à collecter, à mesurer ces contacts. Donc ça passe par ce que nous on appelle des capteurs, qui peuvent faire penser à ce que les gens connaissent peut-être plus, qui sont les tags RFID. Donc c'est des capteurs qui vont régulièrement envoyer un message, et quand un autre capteur sera à proximité, il va recevoir ce message, et donc on va enregistrer le fait qu'un capteur reçoive un message d'un autre capteur, et donc on saura qu'il y a eu contact ou qu'il y a eu proximité entre les deux individus.
Donc il garde l'information.
Il garde l'information. Donc la mesure du contact, c'est ça, en temps réel. Toutes les 30 secondes dans l'expérimentation, je sais qui est autour de moi, grosso modo.
Ça se présente comment ? Comme une montre ? Comme un bracelet ?
Ça se présente, comme une montre-bracelet. Alors, dans les milieux hospitaliers, on n'a pas le droit de porter de montre. Donc, du coup, les infirmiers le portent.
C'est un petit badge ?
Un petit badge en plastique de une vingtaine de grammes que les infirmières portent et que les malades portent. Puisque le challenge, le défi de cette expérimentation, c'est que l'on a instrumenté, si je peux utiliser ce terme, l'ensemble du personnel hospitalier à l'hôpital maritime de Berck et l'ensemble des malades. Donc c'est grosso modo plus de 500 personnes qui portent ce badge afin de mesurer les contacts entre tout ce personnel.
Alors les informations donc sont captées en temps réel. On les envoie immédiatement en base de données sur des serveurs, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et puis là, on commence à analyser les données.
Donc ce qu'on a, c'est deux choses. Donc les données sont captées en temps réel et sont conservées dans la mémoire du capteur.
Comme une clé USB.
On peut voir ça comme une clé USB. C'est-à-dire qu'après, on va pouvoir analyser les données de 500 clés USB. Et en même temps, on a déployé certains serveurs, certaines bases au sein de l'hôpital, pour pouvoir avoir une vision, une gestion de l'expérience, de savoir que les capteurs passent bien à proximité des bases, donc on peut détecter les capteurs défaillants, on peut essayer de détecter l'environnement du capteur, c'est-à-dire que le capteur va nous dire quand il passe une base, les dernières personnes que j'ai vues, donc les derniers capteurs que j'ai vus, attention.
C'est anonyme. Hein.
C'est anonyme, bien sûr. Je ne sais pas qui est qui, j'ai juste un numéro. Donc je sais que le numéro 3 a vu le numéro 5, et que le numéro 5 est passé vers la base, il va me dire j'ai vu dans les dernières 24 heures le 3, le 7 et le 15. Donc je saurais que ces capteurs-là sont vivants. D'accord. Donc c'est plus les bases et les serveurs qu'on a mis en place sont plus dans un but de gestion en parallèle de l'expérience plutôt que dans un but d'analyse. L'analyse se fera vraiment à la fin de l'expérience, donc fin octobre, parce qu'on aura vraiment toutes les données. Alors, je pense que l'enjeu, il est multiple. C'est qu'il y a un réseau de contacts, donc on va avoir une dynamique de la population qu'on a mesurée. Donc c'est 300 millions à la louche de contacts potentiels analysés. Mais les données sont multimodales et multi-échelles. Donc on a plusieurs types de données qui sont enregistrées sur différentes échelles de temps. Donc on a plusieurs échelles de temps. Et la cause à effet ou effet à cause, conséquence, causalité, est vraiment pas du tout triviale dans un ensemble de données dynamiques et multimodales. Donc la modélisation n'est pas si simple que ça à faire.
On imagine. Et c'est pour ça que même pour, entre guillemets, dépouiller ces résultats, on fera appel à des supercalculateurs.
Donc on aura besoin de ressources effectivement conséquentes en espace disque, en espace mémoire, parce que le graphe, le réseau des contacts, c'est est pas si grand que ça, a priori, c'est 600 personnes, mais c'est sur 6 mois toutes les 30 secondes. Donc si je veux analyser tout le graphe des contacts dans la durée, là ça va me faire des millions de sommets.
Micro Oméga sur RFI, comment se propage une bactérie dans un milieu? C'est le thème de cette expérience très intéressante. Dominique, forcément, on se dit, est-ce que ce modèle de recherche peut être transposé à d'autres propagations ou pandémies? On a dit sur la grippe A, par exemple, hors de l'hôpital.
Alors, oui, bien sûr. Alors, si on peut respecter un protocole extrêmement précis et contraignant, mais il faut être patient, car pour Éric Fleury et Didier Guillemot, l'analyse des résultats et leur interprétation, même avec une batterie de supercalculateurs, demande du temps. Et puis, faut contrôler en permanence la fiabilité des données. Alors, un même système pour prévenir les grandes pandémies mondiales, c'est peut-être pas pour demain.
On peut parfaitement imaginer l'extension de l'utilisation ou des recherches demain à venir qui porteraient sur d'autres phénomènes épidémiques à l'intérieur des hôpitaux. Ça, il n'y a absolument pas de doute. D'une part, Eric travaille avec un de mes collègues proches qui est un épidémiologiste de l'hôpital Bichat. Ils ont déjà commencé de travailler là-dessus sur la tuberculose, qui est une expérience tout à fait intéressante. Et puis, nous avons la perspective, puisqu'on a eu là, on a gagné un appel d'offres nationale, la perspective d'étendre ce dispositif et cette expérience à des services de réanimation, parce que les conditions sont vraiment différentes, c'est-à-dire, un, en rééducation, les malades bougent, en réanimation, les malades ne bougent pas, par définition. Et puis deux, bien sûr que c'est quand même dans les services de réanimation ou dans les services, on va dire, de médecine intensive, que le risque lié aux infections nosocomiales et la circulation de ces bactéries pour les malades est le plus important en termes de conséquences.
Alors, est-ce que c'est souhaitable ou réalisable sur toute une population hors hôpital, ce système?
Ça me semble plutôt...
De la science-fiction.
De la science-fiction, oui. Parce que je pense qu'il faut instrumenter toute une population. Et je pense que c'est très bien vu à l'hôpital parce que c'est une expérience. Je pense que c'est pas forcément faisable d'un point de vue technique non plus. Par contre, on peut imaginer que les sticks servent à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles hiérarchiques, on pourrait très bien avoir des modèles d'épidémie dans un hôpital, après avoir les transferts entre les hôpitaux, pour imaginer de regarder en termes de contamination ou d'épidémie dans le système hospitalier global entre plusieurs hôpitaux. Donc, et ça, c'est une donnée supplémentaire, encore une autre échelle qu'on pourrait ajouter au modèle, sachant que j'ai un modèle très précis de l'hôpital.
Alors ce côté un peu hybride où on s'intéresse au biologique, on s'intéresse aussi à l'informatique, ça fait longtemps que l'INRIA procède à de telles expériences et applique ces modèles mathématiques et informatiques à d'autres causes. D'ailleurs, c'est pas la seule expérimentation dans ce sens-là.
Non, alors l'INRIA, effectivement, met en avant STIC et santé. C'est un des fers de lance, un des axes stratégiques de l'Institut. Donc les STIC, c'est les sciences de l'information, technologie de l'information et communication. Donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la société. Et effectivement, on peut imaginer que les STIC jouent un rôle de plus en plus prédominant vis-à-vis des autres sciences, y compris vis-à-vis des pratiques médicales, par exemple. Alors, je pense que les capteurs, c'est pas ce qui nous vient à l'idée tout de suite. Ce qui nous vient plutôt à l'idée, c'est sur les pratiques médicales, c'est l'imagerie médicale. Donc, il y a effectivement beaucoup de projets à l'INRIA qui travaillent sur l'imagerie médicale, qui travaillent sur des modèles de cœur artificiel, des choses comme ça.
Alors, et côté INSERM?
Si vous voulez, du côté INSERM et Institut Pasteur, qui travaillent main dans la main dans le domaine du vivant, de la recherche sur le vivant, et en particulier là, sur les maladies infectieuses. Ce qui est, à mon avis, extrêmement original, mais quand je dis original, c'est novateur d'un point de vue international, c'est d'associer trois choses, c'est les nouvelles technologies de la communication, l'expérimentation épidémiologique, c'est-à-dire la recherche épidémiologique, et tout ça en phase avec du recueil d'informations biologiques. Et ça, c'est extrêmement nouveau.
Voilà, c'est iBird One. Quelle est la suite logique de cette expérience maintenant?
Alors, il y a 6 mois d'expérimentation et si tout fonctionne bien, l'étude se prolongera dans les services de réanimation des hôpitaux APHP, c'est-à-dire Assistance Publique et Hôpitaux de Paris, pour mener donc à bien cette enquête sur les modes de propagation des bactéries responsables de ce fléau, les infections nosocomiales.
Merci Dominique Désonnet, Microméga. Vous retrouvez tout cela sur la page Microméga, donc sur le site de RFI, ainsi que sur la page Facebook. Dans quelques instants, nous évoquons le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. On se retrouve dans 3 minutes.